Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin et toute cette journée d'ailleurs dans la Vosges ensoleillée. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui ai amené le soleil. Mais en tout cas, il fait beau et on se réjouit ensemble. Donc moi, j'habite dans la ville de Nantes, à l'ouest de la France. Et quand Christian m'avait invité pour intervenir dans ce week-end, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment très légitime de venir parler ici? Parce que je n'ai jamais vécu dans des zones rurales, je connais à peine ce que c'est. Je suis né dans une très grande métropole à Madagascar, dans la capitale. Et puis il y a 2 ans, mes parents sont venus en France. Et puis on a atterri en région parisienne. Et puis aujourd'hui... Ah non, il était éteint. C'est bon là? Est-ce que je reprends ou tout le monde m'avait entendu? J'ai pas besoin de reprendre, ok. Et puis maintenant, je vis encore à Nantes et puis dans 2 semaines à Paris, enfin bref, je connais que les grandes villes. Mais pourtant, c'est vraiment un sujet intéressant parce que lorsqu'on voit Jésus, on voit qu'il s'intéresse aux villes et aux villages et à chaque personne. Et c'est ça qui est important et qui est essentiel. Jésus voyait des foules, mais il voyait des individus dans des foules. Il voyait des villes, mais il voyait les personnes. Il voyait les villages, il voyait les personnes. Et nous avons vraiment un défi d'atteindre nos villes et nos villages. Je suis évangéliste avec France Évangélisation, c'est-à-dire j'aime annoncer l'évangile. Mais aussi, ce qui m'intéresse, plus que de l'annoncer moi-même, c'est d'encourager les églises à le faire, d'encourager les chrétiens à être témoins au quotidien, où qu'ils soient. Et c'est important de voir cela. Et c'est sur ce thème-là que j'aimerais m'arrêter ce matin. Nous avons un Dieu surprenant qui agit dans des endroits surprenants. Et nous pouvons le voir dans la parole. Je vous invite à prendre Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8, verset 26 à la fin. Dans Actes au chapitre 8, verset 26 à la fin, nous rencontrons un personnage qui s'appelle Philippe et qui va annoncer l'évangile. Actes chapitre 8, verset 28 à la fin. Nous lisons. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. On a donc dans ce passage un bel exemple d'une rencontre toute spéciale entre Philippe et un Éthiopien. Et ce qui est intéressant, c'est que si on remonte dans le chapitre auparavant, précédent, on voit qu'en fait, Philippe est à Samarie, dans une ville, et dans cette ville-là, Philippe est face à une foule. Et il nous est dit qu'il est face à une foule qui est attentive. Si vous prenez le chapitre 8, verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. En fait, nous connaissons un peu cette histoire, c'est-à-dire que la première église s'est réunie, elle était à Jérusalem, et puis les persécutions sont arrivées, et puis les disciples ont commencé à se disperser, et Philippe, lui, arrive dans une ville de Samarie. Et là, il a des foules entières qui viennent, des foules entières qui voient les miracles, des foules entières qui se convertissent, et ça devait être vraiment enthousiasmant. En tout cas, si j'étais à sa place, j'aurais été content. C'est toujours mieux d'être écouté par des foules, et surtout quand ces foules sont attentives. C'est plus sympa. Et en plus, elles sont non seulement attentives, mais en plus, elles acceptent le message. C'est encore plus sympa. Alors, il devait être vraiment content. Il est là, il prêche, il voit des conversions. Et alors que nous savons que Juifs et Samaritains, ils ne s'entendaient pas forcément, même ils ne s'entendaient pas du tout. Et il voit des conversions dans un terrain qui peut paraître hostile, et il voit des foules se convertir. Et je m'imagine Philippe, lorsqu'il se couchait le soir, il devait dire « Super, demain, on continue. » Et on continue, on va annoncer l'évangile, et il va y encore avoir ces foules qui vont venir et qui vont voir les miracles qui se passent, et c'est beau. Et pourtant, chapitre 8, verset 26, on voit quelque chose de particulier. C'est qu'alors que Philippe a du succès, alors que Philippe voit des foules venir à lui pour entendre l'évangile, alors qu'il voit des foules se convertir à Jésus-Christ, un ange du Seigneur s'adresse à lui et lui dit de se lever pour aller où ? Dans un endroit désert. Ah ! On ne s'attend pas à ça. On s'attend qu'en toute logique, vu qu'il a du succès avec les foules, et ben il continue avec des foules. Ça fait plus de chiffres, il y a plus de monde, et ça peut paraître plus sympathique, et surtout, il y a des gens en face. Or, l'ordre qu'il va avoir, c'est de se lever et de partir dans un endroit désert. Par définition, un endroit désert est désert. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et oui. Imaginez, il reçoit l'ordre de l'ange, donc lui, il est toujours enthousiaste de voir ces foules attentives, les conversions et tout et tout. Et puis là, on lui dit, ben, Philippe, tu vas te lever, tu vas aller là où il n'y a personne. Ah. Et bien Philippe, il aurait pu avoir beaucoup d'objections en disant, mais attends, t'es sûr Seigneur, tu vois bien, il y a des foules, on veut quand même que les gens se convertissent, on veut avoir beaucoup de monde qui se convertisse, on veut que le monde soit sauvé, ça va aller plus vite si on a des foules face à nous que dans un endroit désert, c'est beaucoup plus logique que je reste là, et puis j'ai du succès, et puis on est en terrain hostile, il aurait pu passer son temps à se justifier pour ne pas y aller. Mais la première des choses que Philippe savait, c'est que l'annonce de l'évangile, l'évangélisation, c'est d'abord l'affaire de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est intéressé par les gens, c'est Dieu lui-même qui cherche à ce que les gens se réconcilient avec lui. C'est Dieu qui a l'initiative de toute évangélisation et de tout témoignage. Et nous, notre réponse, c'est d'avoir le cœur ouvert à ce que Dieu fait. Et ce n'est pas donc une question de chiffres, ce n'est pas une question de lieu, mais c'est une question de Dieu qui cherche partout, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, que ce soit à Paris, que ce soit dans les Vosges, qui est passionné par les gens, parce qu'il va l'envoyer vers quelqu'un. Et la première des choses que nous devons avoir lorsque nous parlons d'annoncer l'Évangile, c'est d'avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert à ce que Dieu fait. Le cœur ouvert, c'est-à-dire être convaincu que l'annonce de l'Évangile, c'est d'abord l'initiative de Dieu, c'est d'abord le cœur de Dieu, c'est d'abord l'affaire de Dieu. C'est lui qui missionne et qui dit « toi, tu vas voir des foules » ou « toi, tu vas dans un endroit désert » parce que là aussi, il y a quelqu'un que je veux toucher. Et si on vous a placé ici, dans ces départements ruraux, il y a une chose que nous devons être convaincus, c'est que lui, il a un cœur passionné pour les personnes qui vivent ici. Et c'est lui qui nous place là où nous vivons, et c'est lui qui encourage. Et nous devons avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert aussi pour ne pas faire toujours comme on pense ou comme la pensée commune le voudrait. La pensée commune dans ce texte serait « Philippe a des foules, il est en terrain hostile, ça fonctionne, il y a des miracles, il faut continuer. » C'est très difficile quand on a du succès de savoir s'arrêter. Et pourtant, avec Dieu, c'est pas comme ça, toujours. Des fois, on a du succès, il nous encourage et il dit de continuer, mais des fois, on a du succès et il dit « ben, maintenant, tu vas aller là, là où il n'y a personne, là où il n'y a pas de foule. » Et ça ne devait pas être facile pour Philippe. Ça ne devait pas être facile pour Philippe. Vous savez, ou peut-être ça devait... C'est pas quelque chose qui, instinctivement, humainement, était logique, mais Philippe avait appris à suivre ce que Dieu faisait et non pas ses propres pensées. Vous savez, dans le texte avant, on voit qu'à un moment, il y a un magicien qui s'appelle Simon et qui est impressionné par ce que Philippe y fait. Et Simon, son truc, c'était qu'il aimait bien impressionner les foules. Et c'est gratifiant de le faire. À tel point qu'il semble se convertir, mais ensuite il veut acheter le don miraculeux pour continuer à impressionner les foules. Humainement, pour quelqu'un qui a, on peut dire, un ministère public, d'avoir des foules face à soi, c'est beaucoup plus sympa que d'être dans un endroit désert. Et on le voit avec Simon. Mais Philippe, lui, il ne suit pas ce truc-là. Philippe, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de savoir que Dieu cherche des gens dans les grandes villes, mais peut-être dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Et nous devons être toujours passionnés par l'action de Dieu et par ce qui se fait ici, dans les zones rurales. Et de dire, même si c'est peut-être pas dans la pensée commune, d'annoncer l'Évangile ou de voir là où il y a une ou deux personnes, nous devons y aller parce que Dieu est intéressé par ces gens. Un village où il y aurait deux habitants, il faudrait y aller, et Dieu voudrait qu'on y aille parce que Dieu est intéressé par ces gens. Qu'ils soient un, à partir du moment où il y a une personne, et nous le voyons ici, Dieu est intéressé et il est passionné. Et il est prêt à déplacer quelqu'un qui a du succès, il est prêt à déplacer quelqu'un qui voit des foules, il est prêt à déplacer quelqu'un qui est en ville pour aller dans cet endroit désert pour chercher une personne. Et Philippe, il va obéir. Parce que Philippe, il a la conviction que c'est Dieu qui agit premièrement. Et que lui, il a simplement à suivre ce que Dieu fait. Ça nous rappelle l'histoire d'Abraham. Abraham, lorsqu'il part, il ne sait pas où il va. Dieu lui dit de partir. C'est le seul ordre que Dieu lui donne. Il lui promet qu'Abraham va sortir des familles entières, mais il lui dit de partir de son confort pour aller à tel endroit. Je partageais aux jeunes qu'un des voyages qui m'a marqué ces derniers temps, c'est que j'étais au Niger et puis je rencontrais des jeunes qui n'ont pas la vie très facile, parce que non seulement il y a des difficultés au niveau financier, mais en plus ils sont dans une situation très minoritaire, où ils ont, parce qu'ils sont chrétiens, des discriminations à l'embauche, très compliquées. Et puis je parlais avec un qui s'appelait Boubacar, et lui il s'est converti alors que quelqu'un était venu dans son village. Et là il était en train d'étudier, je crois, En tout cas, le métier qu'il veut faire, c'est dans la nutrition pour combattre la malnutrition. Donc, il est à Niamey, dans la capitale, où il étudie. Et je lui disais, et du coup, tu vas bosser où? Et il me dit, bah, je vais retourner dans mon village. Et puis, il m'expliquait, c'est pas facile de retourner dans le village, parce que c'est beaucoup moins bien payé, c'est beaucoup plus difficile quand on s'est habitué à vivre à Niamey parce qu'il y a un gros décalage. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau, il faut aller plus loin. Alors qu'à Niamey, nous avons tout ça. Mais je sais que là-bas, il y a beaucoup plus besoin de ma compétence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et donc, il va revenir là-bas. Alors que c'est un bon élève et qu'il pourrait avoir des postes très intéressants en ville, il veut aller là-bas et il veut aller aussi là-bas pour annoncer l'évangile et continuer d'annoncer l'évangile. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut vivre. Il ne va pas suivre la pensée commune, il ne va pas suivre le succès qu'on lui propose d'avoir, mais il est intéressé non seulement par l'annonce de l'évangile, mais aussi par ses enfants qui sont mal nourris dans son village. Philippe accepte d'aller dans cet endroit désert. Mais Philippe, lorsqu'il va dans cet endroit désert, il ne sait pas ce qui va se passer. Voyez-vous, Dieu lui donne un ordre. Et il obéit. Et c'est ça notre rôle, en fait, dans l'annonce de l'évangile, c'est d'obéir à Dieu. On ne sait pas toujours comment ça va se passer. On ne sait pas si il va y avoir du succès ou pas. Vous savez, des fois, on est là, on se dit, j'ai rencontré telle personne et je suis convaincu que c'est pas par coïncidence que je rencontre telle personne. Et puis j'annonce l'évangile à cette personne. Je me souviens, un jour, je me trouvais à Londres parce que j'essayais d'apprendre un peu l'anglais. Donc je passais un mois et demi dans une famille. Et puis le dimanche, nous allons à l'église, et puis j'y vais, et puis à la fin du culte, je parle à quelqu'un, alors à l'époque j'habitais à Rennes, je parle à quelqu'un qui, et puis je pensais qu'il était de l'église, et puis non, en fait, c'était quelqu'un qui venait pour la première fois. Et en fait, il était iranien, il venait pour continuer ses études, se réfugier aussi en Angleterre, donc on commence à discuter, et puis je lui dis, moi je viens de Rennes. Et il dit, ah, c'est fou parce que Rennes, c'est la seule ville en France dans laquelle j'étais. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a plein de coïncidences. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de l'église. En fait, c'était la première fois qu'il venait à l'église. Et puis, il connaissait pas du tout l'évangile. Donc, je commence à lui parler. Et puis, à un moment dans la conversation, je lui dis, écoute, c'est vraiment un privilège que tu as d'être ici parce que tu as jamais entendu l'évangile. Et je crois qu'il faut vraiment que tu restes ouvert à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et j'aimerais bien qu'on se revoie. Mais bon, moi, je n'allais pas rester longtemps. Puis on n'a pas pu se revoir. Mais il est revenu à l'église. Et puis quelques mois après, il y a le pasteur de l'église dans laquelle il allait qui m'a écrit. Il me dit, Thomas, je vais se faire baptiser. Et puis il y a 6 autres Iraniens avec lui qui se sont fait baptiser. Extraordinaire. Parce que lorsque j'ai parlé avec lui, on a trouvé plein de coïncidences. Peut-être que je suis allé là-bas juste pour le rencontrer. Mais vous savez, il y en a un autre aussi, pareil, des coïncidences comme celle-ci. Et puis jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas converti. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, en réalité, il y a plein de gens que je rencontre. Et je suis convaincu que Dieu me les met sur mon chemin. Je leur parle de l'évangile. Et aujourd'hui, ils ne sont pas convertis. J'ai plus d'histoires comme celle-là que d'histoires comme la première. Et peut-être c'est votre cas et notre cas à tous aussi. Mais notre rôle, c'est pas le résultat d'abord. Notre rôle, c'est l'obéissance au départ. C'est ça notre rôle. Et de semer. J'aime bien échanger avec Jean-Pierre Magréau, que certains connaissent, parce que justement, on n'a pas le même profil. Lui, il a toujours été dans ces zones ici, rurales, et puis moi, de la ville. Et il me disait, à la campagne, on sème. Et il faut qu'on ait cette passion de la semence et d'attendre parfois des années pour voir le fruit ou parfois ne pas voir. Mais obéir à Dieu, être fidèle dans ce que Dieu nous demande. Notre rôle à nous, c'est d'obéir comme Philippe le fait ici. Premièrement, l'annonce de l'Évangile, c'est d'avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que le deuxième sens que Philippe va utiliser, c'est ses oreilles. Avoir les oreilles ouvertes. On voit effectivement, il est déjà ouvert à ce que Dieu dit, il est passionné pour obéir, mais ensuite, lorsqu'il s'approche du char, il nous est dit, verset 30, « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. » Donc Philippe, il accourt et il ouvre bien ses oreilles pour voir ce qu'il est en train de faire l'Éthiopien, et l'Éthiopien est en train de lire le prophète Ésaïe. Avoir les oreilles ouvertes. Souvent, lorsqu'on parle d'évangélisation, d'annonce de l'évangile, on se demande qu'est-ce qu'il faut dire. C'est-à-dire comment on dit, comment on fait, comment on répond aux gens, comment... Mais ça, on va voir que c'est à la fin que ça se passe. Mais une chose qui se passe avant, c'est d'ouvrir ses oreilles pour écouter la personne en face. Avoir le cœur ouvert et avoir les oreilles ouvertes. Avoir les oreilles ouvertes pour écouter. Ici, Philippe va ouvrir ses oreilles pour écouter l'Éthiopien. Il va ouvrir ses oreilles, il est invité par l'Éthiopien à monter dans le char et ils vont discuter, on ne sait pas pendant combien de temps. Mais Philippe va d'abord passer du temps à écouter. Et c'est un des défis que nous avons. Savoir prendre le temps d'écouter. Les gens autour de nous. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. Et c'est ce que Jésus a fait aussi. Écouter. On veut annoncer l'évangile. L'écoute, c'est une partie intégrante de l'annonce de l'évangile. Lorsqu'on voit Jésus, il est souvent en dialogue et il écoute ce que les gens sont en train de lui dire. Non seulement il écoute Philippe ici, mais on voit qu'il ne reste pas loin de l'Éthiopien. Il aurait pu rester sur le chemin désert en disant « Hey, coucou, j'ai un message à t'annoncer. » Mais il ne fait pas ça. Il s'approche, et c'est l'Esprit qui lui demande de s'approcher. Il monte dans le char sur l'invitation de l'Éthiopien, et ils vont passer un moment ensemble. L'écoute aussi, c'est l'idée d'une proximité, d'être proche des gens, de rentrer dans leur monde, de rentrer dans leur char, de rentrer dans leur vie, de connaître les problèmes, les problématiques, les soucis, les joies, de pouvoir vraiment partager. On voit dans ce passage un zoom, c'est-à-dire que ce passage ne nous dit pas exactement le temps qui a été passé ensemble, mais on sait qu'ils se sont rapprochés, ils ont parlé, ils ont discuté. Philippe a passé du temps à écouter. Et l'écoute est extrêmement importante, est essentielle, parce que lorsqu'on écoute les gens et qu'on connaît les problèmes auxquels ils font face, les obstacles qui les empêchent de venir à la foi, c'est à partir de là qu'on va pouvoir annoncer l'Évangile. À partir de là qu'on va pouvoir annoncer l'Évangile. Quelque chose d'intéressant, c'est de voir que verset 31, Philippe pose la question dans verset 30, à la fin, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voilà la question que pose Philippe. Et les questions sont importantes lorsqu'on discute avec les gens, de savoir poser les bonnes questions, savoir discerner quelles questions on peut poser. Parce que cette question, elle est importante ici, l'Éthiopien est en train de lire, et puisqu'il est en train de lire, Philippe, il lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Parce que la réponse de l'Éthiopien va déterminer le départ de Philippe. C'est-à-dire qu'il va partir de là où l'Éthiopien est. L'Éthiopien va inviter Philippe à lui expliquer. Donc c'est l'Éthiopien qui lui dit « Vas-y, je ne comprends pas. » Et en plus, je ne peux pas comprendre si personne ne me guide. Donc naturellement, Philippe, il peut lui dire « Moi je comprends et en plus je peux te guider » et il va lui annoncer l'Évangile. Et quand on regarde aussi les exemples de Jésus, on se rend compte que beaucoup de fois, lorsqu'il écoute les gens, il écoute leurs questions, et bien lui-même, il va poser des questions. Dans l'annonce de l'évangile, deux choses importantes, écouter les gens et savoir poser les bonnes questions. J'ai un ami qui s'est converti parce qu'à un moment donné, on lui a posé une question toute simple. On lui a dit « Pourquoi tu ne crois pas en Dieu ?» Et il était face à cette question qui paraît simple parce que toujours il se vantait de ne pas croire en Dieu. Et il s'est dit, je ne crois pas en Dieu parce que mes parents ne croient pas en Dieu. Puis après, il s'est dit, mais c'est un peu simple comme réponse, ça. Puisque lui-même, il accusait les chrétiens de croire parce que leurs parents y croyaient. Donc il s'est dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il est allé acheter un livre et puis la Bible pour les nuls. Il a commencé à lire, il a compris. Et puis voilà, un an après, il se convertissait. Mais c'est cette question qui l'a tourmenté. Une question toute simple. Nous devons aussi prier pour trouver les bonnes questions, les discerner lorsque nous parlons avec les gens. Et ça passe toujours par l'écoute. Parce que vous savez, on peut partir sur des fausses problématiques. Un jour, alors que je parlais avec quelqu'un, il m'a posé la question « Est-ce que mon chien ira au paradis ?» Ah. Voilà une question, c'était la première et seule fois à laquelle j'ai fait face à cette question. Est-ce que mon chien ira au paradis? Et quand je forme sur l'évangélisation et je forme dans une école, on fait des petits cas pratiques, donc je pose cette question en disant, voilà, il y a quelqu'un un jour qui m'a posé cette question, est-ce que mon chien ira au paradis? Et quand je pose cette question, immédiatement, je leur demande de réfléchir et puis après... On fait une restitution, donc quelques minutes après, j'identifie tout de suite ceux qui ont des animaux domestiques et qui sont attachés aux animaux et ceux qui ne le sont pas trop. Parce que la classe, elle commence à débattre en deux camps. C'est-à-dire, les uns, ils disent oui, dans la théologie, on remarque ta 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 ta, donc le chien ira au paradis, et les autres disent non, on remarque ta 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 ta, donc le chien n'ira pas au paradis. Donc on débat, on parle là-bas. Et puis je dirais, moi je répondrai comme ça, et puis moi je répondrai comme ça, et je dis, c'est bien. Et puis à la fin, je dis, est-ce que ça vaut pas la peine de savoir d'abord pourquoi ce gars-là, il pose la question? Ah! Pourquoi ce gars-là, il pose la question? Alors du coup, moi, lorsque j'étais en direct avec le gars, on a commencé à discuter, et il m'a expliqué que, en fait, c'était un gars qui vivait avec son chien, et qui vivait dans la rue, qu'il avait été abandonné par ses parents, par tous les services, qu'il faisait confiance à personne à part son chien. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, mon chien, c'est le seul qui est prêt à se sacrifier pour moi, à donner sa vie pour moi. Et c'est mon seul ami qui est fidèle et qui le sera jusqu'au bout. Ah, d'accord. Et lorsqu'il va me dire ça, il me donne les clés pour non seulement je l'écoute d'abord, et là on n'est plus dans le débat si le chien va au paradis ou pas, mais je peux lui expliquer qui est Jésus pour moi. Parce qu'il a compris la notion de sacrifice, et il sait ce que c'est être abandonné, et il sait ce que c'est avoir un ami fidèle jusqu'au bout. Et lui-même me donne les clés pour que moi j'aille plus loin et qu'on n'aille pas en confrontation, que je ne dise pas non, ton chien n'ira pas, et puis voilà, c'est bête de penser comme ça, et puis voilà, accepte Jésus. Non, je peux partir de là où il est. Mais pour partir de là où il est, il faut au préalable que, un, je pose les bonnes questions, et deux, que je l'écoute. Et ça, c'est très important, parce qu'on a tendance à avoir un message qu'on veut arriver, et on veut arriver en plaquant son message. Alors, souvent je pose cette question et puis le lendemain j'arrive avec une autre question. Et ce qui est fou, c'est que souvent, quand on a le réflexe en fait de vouloir tout de suite répondre. Donc le lendemain j'arrive avec une autre question et je dis voilà, telle personne disait je ne peux pas croire en Dieu quand je vois ce que les prêtres et les pasteurs font. Et puis tout de suite, les gens répondent rapidement, oui, il faut pas, c'est pas en regardant les pasteurs qu'on croit pas en Dieu. Et puis voilà, on essaye de défendre un peu le truc. Et puis quand ils répondent, je dis, est-ce qu'on a pris le temps d'écouter qui est derrière la question? Qui est cette personne? C'est quoi son vécu? Parce qu'on peut se planter complètement. Et effectivement, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé, peut-être s'il s'est passé quelque chose de grave avec un pasteur et un prêtre. Et là, on tourne complètement les choses autrement. Mais notre, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'écouter et de poser les questions avec tact et discernement pour voir où en est la personne. J'insiste vraiment sur ce point parce que, un, les personnes derrière les questions sont plus importantes que les questions elles-mêmes, mais aussi, ça va beaucoup simplifier pour annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, c'est l'Éthiopien lui-même qui va déterminer le départ de Philippe. Et Philippe va partir de ce texte pour arriver à la bonne nouvelle de Jésus. Le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, la bouche ouverte. La bouche ouverte, c'est ce qui nous est dit, verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche. » Cœur ouvert, oreille ouverte, bouche ouverte, c'est important d'avoir ces trois éléments et cet ordre chronologique. Cœur ouvert parce que c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui nous place là où il est. Là où nous sommes, et nous devons être ouverts au défi de Dieu, peut-être pour pas faire comme les autres, et se dire, nous devons avoir le cœur ouvert ici dans ces zones rurales que nous connaissons, comment on peut annoncer davantage l'évangile. J'ai donné un défi aux jeunes en disant, un gars comme moi, il connaît pas très bien les villages ici, alors ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, mais vous connaissez. Donc même si vous partez en ville à un moment donné pour étudier, n'oubliez pas d'où vous venez et comment est-ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir ce défi à cœur de retourner, de trouver un métier pour être ici, mais d'autres, ce ne sera pas comme ça. Ils viendront de manière plus épisodique, mais on doit avoir le cœur ouvert. Et puis, les oreilles ouvertes, comme je viens de vous dire, pour toujours voir où en est la personne face à nous. Et c'est de là qu'on va partir pour expliquer. Vous savez, si, ici dans ce texte, l'Éthiopien avait dit à Philippe, à la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» S'il lui avait dit « Oui, j'ai tout compris », et bien là, Philippe, il aurait juste eu à lui dire « Eh bien, qu'attends-tu pour croire ?» C'est tout, s'il a tout compris. Mais vu que là, il dit « J'ai pas compris », et bien on va partir de beaucoup plus loin, pour lui expliquer et pour l'amener à la bonne nouvelle de Jésus. On ouvre la bouche pour arriver à Jésus. Là aussi, c'est extrêmement important. Parce que des fois, on peut annoncer l'évangile en ordre un peu dispersé et sans parler vraiment de Jésus. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. On parle de Jésus, on parle de ce qu'il a fait, on parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il... Parlons de Jésus. Et c'est ce que Philippe, il part de ce texte d'Ésaïe et puis il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, évidemment, toutes les personnes que nous rencontrons, elles ne sont pas en train de lire la Bible au coin de la rue. Mais toutes les personnes que nous rencontrons, elles sont de toute façon dans un cheminement, quoi qu'il en soit, avec Dieu. Même si elles disent qu'elles ne croient pas. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que Dieu les cherche, que Dieu les a créés, que Dieu les a créés pour lui-même. Et quoi qu'il en soit, ces personnes-là ont dans le cœur la pensée de l'éternité, même si elles peuvent l'enfouir. Et quoi qu'il en soit, elles sont dans un cheminement. Et nous, notre but, c'est de les prendre là où elles sont et telles qu'elles sont pour les amener à la bonne nouvelle de Jésus. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, des années. Et des fois, les gens refusent. Mais quoi qu'il en soit, on doit arriver dans leur cheminement, comme Philippe qui monte dans ce char, qui discute, et pour arriver à la bonne nouvelle de Jésus. Avoir le cœur ouvert à ce que Dieu fait, les oreilles ouvertes pour situer là où en sont les personnes, avoir la bouche ouverte pour arriver à la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on ouvre la bouche, c'est que les personnes doivent savoir qu'elles ont un choix à faire. Vous savez, parfois on annonce l'évangile, on informe sur ce que Jésus a fait et c'est bien, c'est très bien. Mais on n'a jamais fini, et on n'a pas fini d'annoncer l'évangile complètement si la personne en face, elle ne sait pas qu'elle a un choix. On doit mettre les gens face à un choix une fois qu'elles ont compris. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez accepter Jésus, oui ou non? Comme ici dans le texte, où là l'Éthiopien dit oui et il se fait baptiser. Et le baptême ici, c'est le symbole du fait qu'il accepte publiquement, qu'il accepte de confier sa vie à Jésus. On n'a pas fini d'annoncer l'évangile si on ne confronte pas les gens, si les gens sont dans le flou en se disant bah, c'est quand même sympa l'évangile, mais voilà. Je travaille beaucoup avec des étudiants étrangers, on les accueille et puis on leur partage l'évangile. Et puis on a beaucoup d'étudiants indiens dans la ville où nous sommes, à Nantes. Et puis un jour on parle de l'évangile à quelqu'un, on parle de Jésus, et puis le gars très enthousiaste dit « Ouais, Jésus, moi j'aime beaucoup », donc c'est un indien, dit « J'aime vraiment Jésus, c'est vraiment beau ce que tu partages ». Et puis à la fin il dit « Jésus, c'est l'un de mes dieux préférés ». Parmi les centaines, donc il n'a pas vraiment compris. Et on a des gens qui écoutent, qui sont enthousiastes, ou il y a des gens qui viennent à l'église, qui suivent et qui suivent depuis longtemps. Mais à un moment donné, il faut qu'on les mette face à un choix. Après, ils peuvent accepter ou pas, ça ne veut pas dire qu'on coupe les relations ou pas, pas du tout, au contraire. Mais il faut que les gens sachent qu'il y a un choix, que c'est une question d'être réconcilié avec Dieu, d'être enfant de Dieu ou pas, d'avoir la vie éternelle ou pas, de vivre avec Jésus chaque jour ou pas, d'appartenir à son peuple ou pas. C'est l'un ou l'autre. Ouvrir la bouche et mettre les gens face à un choix. Avoir le cœur ouvert, avoir les oreilles ouvertes, avoir la bouche ouverte. Que Dieu nous encourage chacun dans notre témoignage personnel. Et il y a quelque chose de vraiment beau, c'est que je vous ai parlé de Philippe qui a du succès avec les foules, je vous ai parlé de la ville, et là il part pour une personne. Mais non seulement cette personne, elle va se convertir, et on ne sait pas ce qui va se passer, mais d'après les recherches et la tradition, on nous dit que c'est lui qui amène l'évangile dans l'Afrique, en tout cas en Éthiopie. C'est déterminé qu'il a annoncé l'évangile là-bas. Et ça, c'est beau. On ne sait jamais ce que Dieu fait. On ne peut pas dire, voilà, il faut aller là-bas, il y a des millions de personnes, parce que peut-être ici, et peut-être avec des gens dont on ne soupçonne pas du tout, parce que Dieu travaille comme ça. Dieu est un Dieu surprenant, qui agit dans des endroits surprenants, avec des personnes surprenantes, et de manière surprenante. Dieu est comme ça. On ne sait pas la personne à qui on parle, qui peut-être n'est pas éduquée ou je ne sais pas ou quoi, mais on ne sait pas ce que Dieu va faire. Et ce que Dieu fait là, c'est extraordinaire. Et ce qu'on a pu voir hier avec les jeunes aussi, c'était que David, lorsqu'il va rencontrer Goliath, il n'est pas allé d'abord pour rencontrer Goliath parce qu'il ne savait pas ce qui se passait sur le champ de bataille. Il est allé parce qu'il a obéi à son père qui lui a dit d'aller apporter de la nourriture. Et on doit être passionné par ces petites choses à faire, par des choses qui ne sont pas visibles, par des choses que personne ne voit. On témoigne depuis des années qu'on ne voit pas le fruit parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire avec ça. Mais lui, c'est le Dieu de l'impossible. Et il peut faire quelque chose d'extraordinaire. La fin continue de manière extraordinaire. Ils repartent tous les deux joyeux. Philippe, de ville en ville, continue à annoncer l'évangile et nous savons que l'Éthiopien a fait la même chose de son côté. Que vraiment nous soyons encouragés dans l'évangélisation personnelle à être fidèles et à répondre à l'appel de Dieu. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus pour ton amour, parce que toi tu as quitté ton ciel de gloire et ton confort pour venir nous chercher. Et nous te prions pour que notre intérêt ne soit pas d'abord d'aller chercher le confort ou le succès apparent, mais qu'on puisse être passionné comme toi par chacune des personnes que nous rencontrons. Et je te prie particulièrement pour ce département de Vosges, parce que tu aimes chacune des personnes ici. Que les églises ici soient fidèles à semer, à annoncer, à aller voir chaque personne que tu aimes profondément, et que nous puissions nous réjouir de ce que tu fais, que nous ayons le cœur ouvert les oreilles ouvertes et la bouche ouverte pour continuer à annoncer l'Évangile. Amen.